إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، c'est un plaisir pour moi d'être avec vous une nouvelle fois à travers cette conférence qui, je l'espère, sera bénéfique pour moi-même avant tout et pour chacun et chacune d'entre vous. Cette conférence intitulée « Les bienfaits et les mérites de l'islam ». Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina » Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parfait sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Toute personne qui est saine d'esprit et clairvoyante, sincère dans son cheminement vers la vérité, faisant abstraction de tout préjugé, lorsque cette personne découvre l'islam et la richesse de ses enseignements, elle ne peut que s'y attacher. Cette religion musulmane, qui est venue avec la croyance de l'unicité, at-tawhid, une croyance simple, logique, compréhensible par tous et acceptée par des cœurs à la fois apaisés et convaincus. L'islam, qui appelle à croire à un seul et unique Dieu, qui n'a aucun associé, subhanahu wa ta'ala, c'est le premier qui n'a pas de début et c'est le dernier qui n'a pas de fin. Il dit Azza wa Jal, laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Il a la puissance absolue. Rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui ressemble, et c'est lui qui entend tout et voit tout. Il a, subhanahu wa ta'ala, la puissance absolue, la volonté suprême et la science parfaite. Il a ordonné à ses créatures d'être soumises à lui, d'œuvrer conformément à ce qu'il agrée, subhanahu wa ta'ala, d'obéir à ses ordres et s'abstenir de ses interdits. Il a exposé les preuves de son existence dans cet univers à travers ses créatures. Il a enjoint les raisons à contempler ses preuves, à les étudier, afin de le connaître, de l'immensifier et de lui accorder ses droits. Il a attiré notre attention sur le fait que nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes et que notre existence n'a pu avoir lieu sans Créateur. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ. Il dit Azza wa Jal dans le sens du verset, ont-ils été créés de rien ou sont-ils leurs propres créateurs? Quant au fait que l'être humain se soit lui-même créé, personne aujourd'hui n'a encore osé le prétendre. Quant à sa création sans créateur, notre sens inné le rejette et le conteste formellement. C'est en réalité un sujet qui ne laisse aucune marge de manœuvre. Ces deux éventualités étant vaines, ne subsiste alors que la vérité énoncée dans le Coran, qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et unique créateur, celui qui se passe de toute chose, mais dont toute chose a besoin, celui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré, celui qui n'a pas de semblable. Il attire notre attention également, subhanahu wa ta'ala, sur les cieux et la terre. Qui les a créés? Il invite à scruter le ciel et ce qui le compose, comme ce soleil rayonnant, cette lune éclairante et ces étoiles lumineuses. Il dit Azza wa Jal, تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Infinie est la bénédiction de celui qui a placé dans le ciel des constellations, ainsi qu'un astre flamboyant et une lune luisante. Il dit également Azza wa Jal, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. C'est lui qui a fait du soleil une lumière et de la lune une clarté, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez dénombrer les années et mesurer le temps. Il dit سبحانه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. C'est lui qui fend le ciel à l'aube, qui fait de la nuit un temps de repos, et du soleil et de la lune un moyen de mesurer le temps. Tel est l'ordre établi par le Tout-Puissant, celui qui connaît toutes choses. Il dit également Azza wa Jal, en nous invitant à scruter sa création céleste, أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ. Ne médite-t-il pas sur le royaume des cieux et de la terre, sur toute chose qu'Allah a créée, et sur le terme de leur existence qui est peut-être déjà proche? Il dit également Azza wa Jal, الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. Celui qui a créé sept cieux superposés, tu ne verras aucune discordance dans la création du miséricordieux. Regarde à nouveau le ciel, y vois-tu la moindre fissure? Regarde encore et encore, ton regard ne s'en trouvera que plus incapable, c'est-à-dire d'y trouver le moindre défaut, et que plus harassé. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala attire l'attention sur la terre et la flore diverse et variée qui la compose. Il dit Azza wa Jal, وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. Il est sur terre des parcelles voisines, des jardins plantés de vignes, de céréales et de palmiers, groupés ou espacés, et bien qu'ils soient arrosés de la même eau, nous rendons le goût de certains meilleur que celui d'autres. Il y a bien là des preuves pour ceux qui raisonnent. En effet, nous pouvons constater que lorsque, dans une même parcelle, une vigne soit plantée aux côtés d'un cerisier, ils sont arrosés d'une seule et même eau. Pourtant, chacun déploie ses propres racines, qui puisent de la terre les ressources nécessaires à sa croissance, et chacun apporte des fruits qui diffèrent à la fois dans leur apparence, dans leur couleur, dans leur odeur et leur goût. La terre ainsi que l'eau utilisée sont identiques, tandis que le résultat est époustouflant de diversité et de différence. Cela n'est-il pas la preuve de l'existence d'un créateur sage et capable de toutes choses, subhanahu wa ta'ala? Une autre fois, Allah Azza wa Jalla attire l'attention sur l'eau, cette substance essentielle qu'il fait descendre, subhanahu wa ta'ala, du ciel. S'il le souhaitait, il la rendrait saumâtre, devenant ainsi impropre à la consommation et à l'arrosage des cultures. Allah Azza wa Jalla dit: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ. Voyez-vous l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre des nuages, ou est-ce nous qui la faisons descendre? Si nous voulions, nous la rendrions saumâtre, c'est-à-dire salée et au goût amer. Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte également à travers le royaume des cieux et de la terre qu'il détient, subhanahu wa ta'ala, de façon exclusive et dont il est le seul et unique gestionnaire. مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقُ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah ne s'est point donné d'enfant, et il n'est d'autre divinité avec lui. Si c'était le cas, chaque divinité s'en irait avec sa propre création en cherchant à dominer l'autre. Gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est bien au-dessus de tout ce qu'il décrive. La création d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas simplement gigantesque par sa taille et le nombre inimaginable d'éléments qui la composent, mais elle est aussi parfaite. L'architecture du monde céleste observable, avec ses planètes, ses étoiles, ses galaxies, ses soleils et autres, n'est-elle pas parfaite et sa mécanique minutieusement orchestrée? Cette terre, à travers ses vastes étendues, ses océans, ses mers, ses montagnes, ses vallées, ses rochers, ses sables, ses minéraux, ses saisons, ses nuits et ses jours qui se succèdent, la trajectoire précise et minutieuse que suit cette terre en tournant sur elle-même, tout ceci n'est-il pas parfait? Cette faune, composée d'animaux qui volent, d'autres qui nagent, d'autres qui marchent, d'autres qui rampent, la multitude de ces espèces, de ces couleurs, leur façon de vivre, de dormir, de chasser, de manger, cette faune n'est-elle pas parfaite? Quant à cette flore, terrestre et marine, à travers ses arbres, ses cultures, ses fruits, ses plantes, ses fleurs, ses couleurs, ses goûts, ses odeurs, n'est-elle pas parfaite? Ce corps humain, dans sa création, dans la disposition de ses membres et de ses organes, dans son fonctionnement, dans son autonomie, dans son adaptation, dans ses aptitudes physiques et intellectuelles hors normes, n'est-il pas parfait? Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble, qui t'a créé, façonné et constitué harmonieusement sous l'apparence que lui a voulu te donner? En effet, qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Ô être humain faible et vulnérable, qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Pourtant, tu es émerveillé par l'intelligence et la créativité de cet architecte qui a dessiné cette maison devant laquelle tu restes ébahi par la beauté extérieure et le design intérieur. Pourquoi cette insouciance? Pourquoi alors cette insouciance à l'égard de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, dont la création est la plus belle? Qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, ô être humain? Pourtant, tu traiterais de fou et d'insensé. Quiconque te dirait que les rouages de la montre que tu portes à ton poignet se sont naturellement formés, puis naturellement imbriqués les uns dans les autres pour finalement te donner l'heure précise. Pourquoi alors persistes-tu à dire que c'est la nature qui a créé les rouages de ce système solaire au milieu duquel tu vis? Qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, ô être humain? Pourtant, tu ne croirais pas un seul instant que ce ballon qui vient de terminer sa course au fond de ce but se soit naturellement projeté et propulsé jusqu'à atteindre sa cible. Pourquoi alors t'obstines-tu à croire que la Terre suit une trajectoire bien définie sans un Seigneur qui lui fixe un cap? Qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, ô être humain, au point d'être aussi aveugle et insouciant face à autant de signes de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jal a légiféré à ses serviteurs des adorations qui apaisent les esprits et les épurent, qui régissent les relations et les renforcent, qui réunissent les cœurs et les purifient. L'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, n'est que la continuité de ce à quoi appelaient tous les prophètes d'Allah. Il dit subhanahu wa ta'ala: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Il vous a institué en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous te révélons, ainsi que ce que nous avions enjoint à Abraham, Moïse et à Jésus, à savoir observer les prescriptions de la religion et ne divergez pas en cela. Nous allons, à travers cette conférence, incha'Allah ta'ala, exposer quelques bienfaits de cette noble religion qu'est l'islam, les bienfaits de la croyance musulmane, les bienfaits des adorations et les bienfaits de ces comportements auxquels l'islam nous appelle à adopter. Quant aux bienfaits de la croyance musulmane, à travers l'exposition de celle-ci, apparaît la relation claire et simple qui existe entre le Créateur et sa créature. En effet, il n'existe pas entre eux d'intermédiaire. Le musulman s'adresse directement à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, à travers al-adhkar, les évocations à travers les invocations et à travers les adorations du cœur et du corps. Ceci en conformité avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah est le seul et unique à mériter l'adoration. C'est lui le seul subhanahu wa ta'ala qui exauce l'invocation de son serviteur de jour comme de nuit. C'est lui qui pardonne et accepte le repentir de son serviteur. Tout ceci en s'adressant directement à lui subhanahu wa ta'ala. Parmi les bienfaits de la croyance musulmane, la relation entre le serviteur et son créateur est continue et ininterrompue, quelle que soit la situation que vit le musulman, qu'il soit en situation d'aisance, comme lorsqu'il doit surmonter épreuves et difficultés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr, in asabathu sarra'a shakar, fakana khayran lah, wa in asabathu darra'u sabar, fakana khayran lah. » Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le cas du croyant est étonnant. Toutes ces situations sont bonnes. Lorsqu'un bien le réjouit, il est reconnaissant et cela est meilleur pour lui. Et lorsqu'une situation néfaste le touche, il fait preuve de patience et cela est meilleur pour lui. » Parmi les bienfaits de la croyance musulmane, il y a l'obligation de croire en l'ensemble des prophètes et envoyés d'Allah, alayhim as-salatu wassalam. Cette croyance est le quatrième pilier de la foi, et c'est une conséquence directe de la croyance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. L'islam nous a montré la réelle place des prophètes, leur fonction, l'importance qui doit leur être accordée, le respect qui leur est dû, ainsi que les droits qu'ils ont sur nous. Le musulman aime Moïse et Jésus, alayhim as-salam, comme il aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi le juif, qui avait suivi Jésus, fils de Marie, à son époque, n'a ni renié ni rejeté Moïse, mais il a en plus obtenu la croyance en Jésus, fils de Marie, alayhi as-salam. De la même manière, le chrétien qui embrasse l'islam n'aura renié ou rejeté ni Moïse, ni Jésus, fils de Marie, mais il aura obtenu, en plus de la croyance en ces deux illustres prophètes, la croyance en Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, le sceau et l'ultime des envoyés d'Allah alayhi mussalatu wassalam. Parmi les bienfaits de la croyance musulmane, le fait qu'elle nous enseigne l'importance de croire en l'invisible, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à connaître, et il est subhanahu wa ta'ala l'unique à en détenir les clés. Ni les anges, ni les djinns, ni les êtres humains n'ont la connaissance de l'invisible. Et le Coran est très clair à ce sujet. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dis, personne dans les cieux ni dans la terre ne connaît l'invisible. Seul Allah en est le connaisseur. Ils n'ont plutôt aucune science concernant l'au-delà. Cela étant connu, les portes se referment donc devant tous ceux qui prétendent connaître l'invisible ou connaître le futur, parmi les sorciers, les devins, les voyants et autres. La position de l'islam vis-à-vis d'eux est catégorique. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Voulez-vous que je vous informe sur qui descendent les démons, ils descendent sur tout grand menteur et pécheur. Ils cherchent à écouter, mais la plupart ne sont que des menteurs. Il n'y a aucun doute qu'une croyance comme celle-ci permet aux musulmans de protéger son intégrité et de ne pas suivre le charlatanisme. Le musulman, par cette croyance musulmane, préservera également son argent et ses biens qu'il aurait dépensés au profit de ces personnes trompeuses et malhonnêtes. L'islam a donc formellement interdit la sorcellerie. Comme l'islam a interdit de croire les devins ou les voyants, il dit alayhi salatu wassalam, « Laysa minna man tatayyara aw tutayyara lah, aw takahana aw tukuhina lah, aw sahira aw suhira lah, wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzil ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. » Il dit, alayhi salatu wassalam, n'est pas des nôtres celui qui consulte les présages, c'est-à-dire ces signes qui, soi-disant d'après lesquels l'on pense prédire l'avenir, n'est pas des nôtres celui qui consulte les présages ou pour qui on les consulte, ou celui qui pratique la voyance ou consulte un voyant, ou celui qui pratique la sorcellerie, ou pour le compte duquel on la pratique. Quant à quiconque se rend chez un voyant et croit ce que ce dernier dit, a certes renié ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Quant au bienfait des adorations, mes chers frères et sœurs, méditons sur les bienfaits des grands piliers de l'islam, que sont la prière, l'aumône, le jeûne du ramadan et le pèlerinage de la maison sacrée. Quant à la prière, c'est le lien entre l'adorateur et son Seigneur. On retrouve dans cette prière la sincérité pure à Allah subhanahu wa ta'ala, le respect et le bon comportement. On y retrouve l'éloge et l'invocation. On y retrouve la soumission et l'expression de la révérence du serviteur envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le prieur s'acquitte de son devoir d'immensifier Allah azza wa jal et entame sa prière en proclamant et en reconnaissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que toute chose et qu'il mérite glorification et vénération. Puis le prieur entame les éloges et les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, atteste qu'il est le seul à être adoré, et lui demande avec humilité de le guider sur le droit chemin et de le prémunir du chemin des égarés et de ceux qui ont encouru sa colère. C'est ainsi que le cœur du croyant qui accomplit sa prière déborde d'amour, de respect, de crainte et de vénération pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il se prosterne alors face contre terre pour exprimer son humilité et sa dépendance vis-à-vis de celui qui détient les clés des cieux et de la terre subhanahu wa ta'ala. Ainsi la prière se distingue comme étant une soumission au Seigneur des mondes. Elle permet d'exprimer son humilité et reconnaître l'immensité du dominateur suprême, le Tout-Puissant subhanahu wa ta'ala. Celui dont le cœur réagit ainsi, plein de respect et de crainte envers Allah azza wa jal, ne pourra que s'éloigner des interdits. Allah azza wa jal dit: Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Et observe la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable, le rappel d'Allah et ce qu'il y a de plus grand. La prière aide également le serviteur à bénéficier des intérêts religieux et mondains. Allah Azzawajal dit « Wasta'inu bis sabri was salah » et recherchez l'aide dans la patience et la prière. Quant à l'aide apportée pour ses intérêts religieux, le musulman assidu dans sa prière voit grandir son désir d'œuvrer dans le bien. Ceci lui facilite l'accomplissement de ses obligations religieuses, le cœur apaisé et animé par l'espoir d'obtenir la pleine récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'aide apportée pour ses intérêts mondains, la prière permet d'alléger les difficultés et elle apporte un réconfort lors des catastrophes. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse jamais se perdre la récompense des bienfaisants. Il les récompense notamment en leur facilitant les situations mondaines et en plaçant sa bénédiction subhanahu wa ta'ala dans leurs biens et dans leurs actions. La prière en groupe, quant à elle, a la particularité de tisser les liens entre les croyants, mais aussi de les préserver. Elle permet l'entraide et l'amour entre les musulmans, mais également l'affection à l'égard des jeunes, ainsi que le respect des personnes âgées. Quant à la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrite et elle réunit de nombreux bienfaits. Elle permet de réformer la situation du nécessiteux. Elle permet de combler le besoin du pauvre et d'alléger le poids de l'endetté. Elle permet d'être comme les personnes généreuses, dans leur bonté et dans leur bienfaisance, loin de l'avarice et de l'égoïsme. Cette zakat purifie le cœur de l'attachement à ce bas monde. Elle préserve les biens de toute forme d'impureté. C'est un remède pour la société. C'est une thérapie pour les individus qui se voient débarrassés de l'avarice et de la cupidité. Allah Azza wa Jal dit « وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » Ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont les bienheureux. Quant aux jeunes, il inculque la pitié, la douceur et la compassion envers les démunis. Au ressenti de la faim, le musulman qui jeûne se remémore le pauvre affamé et admet les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Puis, il fait preuve de reconnaissance envers son créateur et son pourvoyeur subhanahu wa ta'ala. Le jeûne renforce la personne dans son endurance. Il renforce la personne dans sa bonté, tout en purifiant son corps des substances néfastes. Ce jeûne est avant tout une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, une soumission à lui, une obéissance à sa prescription. Et les difficultés qui pourraient découler du jeûne ne sont en rien comparables à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux récompenses sans commune mesure qu'il a préparé, subhanahu wa ta'ala, pour les jeûneurs. Quant au pèlerinage, à travers celui-ci, les musulmans des quatre coins du globe se réunissent. Ils se réunissent dans un seul et unique endroit, adorant un Seigneur unique. Ils prennent conscience du lien islamique qui les unit avec force. Ce pèlerinage rappelle aux musulmans les prophètes et envoyés d'Allah, alayhim as-salatu was-salam, wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, faites de la station d'Abraham un lieu de prière. Ce pèlerinage rappelle aux pèlerins le maître des envoyés, alayhi as-salatu was-salam, ainsi que l'ami intime d'Allah, Ibrahim alayhi as-salam. Ces deux illustres prophètes, dévoués à leur Seigneur et qui sont dotés de qualités grandioses. Le pèlerin suit leurs pas, les prend comme exemple, cite leurs mérites et éprouve à leur égard un immense respect. Sa foi augmente alors et sa certitude devient inébranlable. Le pèlerinage épure l'âme, il lui inculque la générosité et l'exerce à produire des efforts, à surmonter les difficultés, à délaisser le mépris et l'arrogance. Le pèlerinage amène le pèlerin à se considérer au même niveau que les autres musulmans. Car le pèlerinage ne fait de différence ni entre le roi et ses administrés, ni entre le riche et le pauvre. Le pèlerin visite également la terre de la révélation et découvre des cultures différentes. Lorsqu'il retire ses vêtements habituels pour la tenue de l'ihram, à savoir ces deux étoffes de tissu blanc qui s'apparentent au linceul par lequel on recouvre le défunt, le pèlerin se remet alors en question et se prépare pour son rendez-vous inévitable avec la mort. Le pèlerinage rappelle le rassemblement du jour dernier, lorsque l'ensemble des créatures seront réunies dans une seule et même place, nues et incirconcis. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Le jour où les hommes se lèveront pour comparaître devant le Seigneur de l'univers. Quant aux bienfaits de l'islam, à travers les comportements, le doué de raison qui médite sur la religion musulmane verra sa foi raffermie et sa sincérité renforcée. En réfléchissant à ce à quoi appelle l'islam, il constatera que cette religion enjoint au bon comportement, à la véracité, à la chasteté, à la justice, au respect des engagements, à la préservation et la restitution des dépôts, à la bienfaisance envers les pauvres et les orphelins, au bon voisinage, à honorer l'invité et bien d'autres comportements louables. L'islam appelle à la bonté et à la piété. L'islam appelle à jouir des bienfaits mondains à juste mesure et avec modération. De même que l'islam interdit la turpitude et le blâmable, tout comme le mal et la transgression. En somme, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala n'enjoint que ce qui apporte le bonheur et la réussite et n'interdit que ce qui provoque le malheur et la nuisance. Parmi les bienfaits de l'islam, saluer celui que l'on connaît comme celui que l'on ne connaît pas. Il dit alayhi salatu wassalam, lorsqu'un homme est venu le questionner « Ayyul islami khayr ?»« Qu'y a-t-il de mieux à faire en islam, ô envoyé d'Allah ?» Et le prophète alayhi salatu wassalam a répondu « Tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. » Il répondit alayhi salatu wassalam « C'est d'offrir de la nourriture et saluer celui que tu connais comme celui que tu ne connais pas. » Parmi les bienfaits de l'islam, faire entrer la joie dans le cœur du musulman et aider les personnes dans le besoin. Et vous connaissez tous la parole du prophète alayhi salatu wassalam, « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. » Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Mais il dit aussi, alayhi salatu wassalam, « Man kana fi hajati akhih, kana Allahu fi hajatih. » Quiconque s'emploie à subvenir aux besoins de son frère, Allah subviendra à ses besoins. Parmi les bienfaits de l'islam, la bienfaisance envers les faibles, la compassion envers les pauvres, la bonté, la pitié, la bienfaisance, l'assistance et la protection des orphelins. Allah Azza wa Jalla nous enjoint à tous ces comportements. Lorsqu'il dit Subhanahu warfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin, sois bienveillant à l'égard des croyants qui te suivent. Il dit Azza wa Jalla fa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar. Ne maltraite donc pas l'orphelin et ne repousse pas celui qui te demande. Il dit Azza wa Jalla أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Vois-tu celui qui traite de mensonge la rétribution? C'est bien lui qui repousse l'orphelin et qui n'encourage pas à nourrir le pauvre. Parmi les bienfaits de l'islam, l'interdiction de rompre les liens de parenté. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et rompre vos liens de parenté? Et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, comme cela est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari, le lien de parenté est suspendu au trône et dit, celui qui maintient le lien avec moi, Allah le maintiendra avec lui, et celui qui rompt avec moi, Allah rompra avec lui. Parmi les bienfaits de l'islam, le respect des personnes, et plus particulièrement les personnes âgées, ainsi que l'affection et la tendresse envers les enfants. Il dit alayhi salatu wassalam, laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Il dit alayhi salatu wassalam, celui qui ne fait pas miséricorde à nos jeunes et ne respecte pas nos personnes âgées ne fait pas partie de nous. Il dit également alayhi salatu wassalam, inna min ijlalillah ikram إكرام ذي الشيبة المسلم. Honorer la personne musulmane fait partie de la vénération d'Allah. Parmi les bienfaits de l'islam, l'interdiction pour le mari de mal se comporter avec son épouse. En effet, l'époux doit donner de la considération à son épouse et regarder ses qualités. Le respect doit bien évidemment être mutuel entre les époux, mais l'islam insiste particulièrement sur le comportement du mari à l'égard de sa femme. Et ceci, comme vous le constaterez, est aux antipodes de l'image du mari musulman violent et macho qui est véhiculé par les ennemis de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « La yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqa » radiya minha akhar. Qu'un croyant ne déteste pas une croyante, si l'un de ses comportements lui déplaît, un autre lui plaira. Et il dit alayhi salatu wassalam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Les croyants ayant la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs avec leurs femmes. Parmi les bienfaits de l'islam, l'interdiction de la médisance, du colportage, de la jalousie, de l'espionnage, du mensonge, de la trahison et de proférer vulgarités et obscénités. Il dit عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. Le croyant n'est ni calomniateur, ni grossier, ni obscène et ne maudit pas les gens. Parmi les bienfaits de l'islam, délaisser ce qui ne nous concerne pas. C'est l'une des recommandations de notre noble religion qui épargne le musulman et la musulmane de nombreux problèmes. En effet, s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, amène à tomber dans la médisance, dans l'espionnage. Cela amène la dureté du cœur. Cela amène à entendre des choses déplaisantes, à être détesté des gens, à envenimer des situations. Cela amène à une perte de temps considérable. Cela amène également à s'oublier soi-même et bien d'autres conséquences néfastes. Il dit alayhi salatu wassalam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Fait partie du bon islam de la personne le fait de délaisser ce qui ne la concerne pas. Parmi les bienfaits de l'islam, la juste mesure entre l'avarice et les dépenses excessives. Allah Azza wa Jal dit: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Ne sois ni avare ni dépensier à outrance, sinon tu te trouverais blâmé et incapable de toute dépense. Et il dit Azza wa Jal: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ne se montrent ni prodigues ni avares, mais s'en tiennent à la juste mesure. Parmi les bienfaits de l'islam, la juste mesure dans la consommation de la nourriture et des boissons. Allah Azza wa Jal dit: وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Quant au prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi: et jugez bon, le fils d'Adam ne remplit pas de récipient pire que son estomac. Le fils d'Adam n'a guère besoin de plus de quelques bouchées pour maintenir son dos droit, c'est-à-dire pour vivre convenablement. S'il veut absolument manger davantage, alors qu'il consacre un tiers de son estomac à sa nourriture, un tiers à sa boisson et un tiers à son souffle. Parmi les bienfaits de l'islam, l'interdiction d'exagérer dans la religion et de se priver des bonnes choses, car la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est la religion de la facilité et du juste milieu. Vous connaissez tous ce hadith célèbre de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, lorsque trois hommes ont questionné les épouses du prophète alayhi salatu wassalam au sujet de son adoration. Ils ont trouvé que les adorations du prophète alayhi salatu wassalam étaient légères selon eux. L'un d'eux dit alors: pour ma part, je m'engage à passer toutes les nuits en prière. L'autre dit: quant à moi, je m'engage à jeûner sans interruption le reste de ma vie. Et quant au troisième, il dit: je m'engage à m'éloigner des femmes et à ne jamais me marier. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu à eux et leur a dit: est-ce vous qui avez tenu tel et tel propos? Par Allah, je suis le plus pieux d'entre vous et celui qui craint le plus Allah. Mais je jeûne et je romps, je prie et je dors, et je me marie avec les femmes. Celui qui se détourne de ma voie ne fait pas partie de moi. La sunna du prophète alayhi salatu wassalam est donc la jauge par laquelle l'on détermine qu'une personne est dans le juste milieu, dans l'excès, ou bien dans le laxisme. Certaines personnes, voulant déstabiliser les musulmans, en se présentant comme les porte-parole de l'islam modéré, comme étant les adeptes de l'islam des Lumières, et comme étant les vaillants combattants contre l'islam radical, de quel droit se permettent-ils de diviser ainsi l'islam ? L'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est unique et indivisible. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam » Certes, la religion auprès d'Allah est l'Islam. Il dit subhanahu wa ta'ala وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Ainsi, prétendre un islam modéré, c'est attester qu'il y a d'un côté un islam laxiste et de l'autre un islam radical. Prétendre l'existence d'un islam des Lumières, c'est attester l'existence d'un islam des ténèbres. Qui parmi les musulmans oserait dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, aurait légiféré un islam radical, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait transmis un islam des ténèbres? Si aucun musulman ne s'aventurerait à tenir de tels propos, d'où viennent alors ces islams laxistes, modérés et radicaux? Qui les a légiférés et qui les a transmis? Ce ne sont en réalité que des subterfuges qui n'ont d'autre but sinon de porter atteinte à l'islam unique, authentique et indivisible. La vérité est pourtant simple. Elle est simple et elle est limpide. Il y a ceux qui ne pratiquent pas ou peu l'islam. Il y a ceux qui ont une pratique normale de l'islam. Et il y a ceux qui exagèrent dans la pratique de l'islam. Et aujourd'hui, l'on tente de faire croire aux musulmans que ceux qui ne pratiquent pas ou peu l'islam, ce sont eux les modérés. Et que ceux qui ont une pratique normale de l'islam, ce sont eux les extrémistes. Cette compréhension erronée comporte son lot de contradictions et de non-sens. La première, qui est flagrante, c'est l'inexistence du laxisme. Si ceux qui pratiquent peu ou pas l'islam sont les modérés, où sont alors les laxistes? Existent-ils? Et si oui, qui sont-ils? Et comment faisons-nous la différence entre eux et les modérés? Puis, comment qualifier ceux qui exagèrent dans la pratique de l'islam, quand ceux qui pratiquent normalement sont considérés comme des extrémistes? Comment doit-on qualifier ceux qui exagèrent dans la pratique de l'islam? Doit-on les qualifier d'ultra-extrémistes? Ou bien de super-extrémistes, ou peut-être de méga-extrémistes. Tous ces termes ne sont qu'une mascarade qui ne tient pas debout et s'effondre par un simple raisonnement logique. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ou a laissé faire, c'est ceci qui dicte aux musulmans ce qu'est le juste milieu dans la pratique de l'islam. Et ce n'est en aucun cas des considérations politiques ou des ambitions partisanes ou électoralistes. En dehors de la voie tracée par le prophète alayhi sallatu wa sallam, il ne peut y avoir que le laxisme ou l'extrémisme. Et les musulmans pratiquent une religion qui est millénaire. Les musulmans ont un patrimoine culturel et scientifique d'une richesse considérable. L'islam, c'est une religion qui a ses valeurs, qui a ses principes, qui a ses savants, qui a ses érudits, qui a son histoire, et c'est une religion surtout qui a un Seigneur suprême, subhanahu wa ta'ala, qui en est le garant et le protecteur. Parmi les bienfaits de l'islam, l'encouragement à pleinement profiter de cette vie d'ici-bas, à y œuvrer pour la vie de l'au-delà. Il dit Azza wa Jal, « Ya ayyuha alladhina amanu attaqullah » وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. Ô vous qui croyez, craignez Allah, que chacun voit ce qu'il a avancé pour demain. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans trois choses, une aumône continue, ou une science dont les gens tirent profit, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Parmi les bienfaits de l'islam, participer aux funérailles du musulman, afin d'invoquer la miséricorde d'Allah en sa faveur, accomplir sur lui la prière funéraire, et apporter soutien et réconfort à ses proches. Quant aux bienfaits de l'islam sur la société, et je terminerai par ce point, les bienfaits de l'islam dans la société sont multiples. L'islam permet de vivre dans une société stable, sûre, une société loin de la corruption et de l'injustice. Cette noble religion nous apprend comment régir les relations économiques, matrimoniales et autres, entre les individus, et ceci à toutes les échelles de la société. Et en voici un bref aperçu. L'islam considère le meilleur être humain auprès d'Allah comme celui étant le plus vertueux et le plus pieux. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. L'islam condamne la haine et la division entre les croyants. Il dit Azza wa Jal, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Attachez-vous tous à la corde menant à Allah et ne vous divisez pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les croyants entre eux sont comme une construction. Ils se soutiennent les uns les autres. Puis il a croisé ses doigts bénis, alayhi salatu wassalam. L'islam interdit toute forme d'injustice et ordonne d'être juste avec le proche comme avec le lointain. Ya ayyuha alladhina amanu, kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Ô vous qui croyez, respectez scrupuleusement vos devoirs envers Allah et ne témoignez qu'en toute équité que l'aversion qui prouve un peuple pour vous ne vous incite pas à être injuste. Soyez équitable, cela est plus proche de la piété. L'islam interdit de s'en prendre aux personnes, à leurs biens, à leur honneur et à leur raison. Les comportements islamiques, que sont la loyauté, la véracité, la chasteté et être digne de confiance, ne sont pas, comme pourrait le penser un certain nombre de personnes, des comportements de perfection, mais ils sont bel et bien des obligations que le musulman doit absolument mettre en pratique. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme le rapporte l'imam muslim, selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, « Atadrouna mani l'muflis ?»« Qalu l'muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a ?» Faqala alayhi salatu wassalam, « Inna l'muflisa min ummati man yati yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakah wa yati wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Il dit عليه الصلاة والسلام: Savez-vous qui est l'homme ruiné? Ils répondirent: Selon nous, l'homme ruiné est celui qui ne possède ni bien ni argent. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors: Dans ma communauté, l'homme ruiné est celui qui, le jour du jugement, viendra avec à son actif des prières, des journées de jeûne, des aumônes, mais qui aura par ailleurs insulté un tel, calomnié un autre, voler l'argent de tel autre, verser le sang de celui-ci et frapper celui-là. On lui prendra alors de ses bonnes actions pour les distribuer à ses victimes. Et si ses bonnes actions ne suffisent pas à l'expier de ses péchés, on prendra alors des péchés de ses victimes et on les lui inscrira à son actif. Puis on le jettera en enfer. Wal'iyadu billah. L'islam nous enjoint à être clément, doux et compréhensif. Il dit Azza wa Jal, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Il dit Azza wa Jal, اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن, repousse le mal par ce qui est meilleur. Il dit Azza wa Jal, وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقَوَى, que vous renonciez à réclamer vos droits et plus proche de la piété. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith authentique qu'il y avait un homme qui prêtait de l'argent aux gens. Il disait à ses servants: lorsque vous rencontrez une personne en difficulté, soyez clément envers elle, c'est-à-dire sur les conditions du prêt ainsi que sur les modalités de remboursement. Peut-être qu'Allah sera clément envers nous. Il rencontra Allah, c'est-à-dire que cet homme mourut. Il rencontra Allah qui lui pardonna. L'islam appelle à réconcilier entre deux croyants et interdit aux croyants de couper les relations entre eux, de se détester, de se jalouser. Il dit, subhanahu wa ta'ala, innama al-mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhawaykum. Les croyants sont frères, réconciliez-les. Et il dit, alayhi salatu wassalam, la taqata'u, wa la tadabaru, wa la tabaghadu, wa la tahasadu. Ne coupez pas les relations entre vous, ne vous tournez pas le dos, ne vous détestez pas, ne vous enviez pas, et soyez des frères, comme Allah vous l'a ordonné. L'islam interdit de se moquer des gens et de citer leurs défauts. Ya ayyuha alladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawm. Ô vous qui croyez, ne vous moquez pas les uns des autres. Et il dit alayhi salatu wassalam, man satara musliman satarahu Allah. Et il dit alayhi salatu wassalam, ya ma'shara man amana bilisanih, wa lam yadkhul al-imanu qalbah, لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. Il dit alayhi salatu wassalam, celui qui cache les défauts d'un musulman, Allah cachera ses défauts. Et il dit alayhi salatu wassalam, ô vous qui avez cru par vos langues, mais dont la foi n'est pas ancrée dans le cœur, ne médisez pas les musulmans et ne soyez pas à l'affût de leurs défauts. L'islam nous ordonne de nous assurer de la véracité des propos que nous entendons ou des informations qui nous parviennent, comme l'islam nous ordonne de ne parler que des sujets que nous connaissons et que nous maîtrisons. Ya ayyuha alladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, faites preuve de vigilance et de retenue. Faites preuve de vigilance et de retenue de crainte de porter atteinte à des innocents par ignorance et d'éprouver ensuite des regrets pour ce que vous avez fait. Il dit à Azzawajal, « La taqfu ma laysa laka bihi ilm » N'affirme pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'islam nous enjoint à aimer pour les gens ce que l'on aime pour soi-même et de se comporter avec eux comme l'on aimerait qu'ils se comportent avec nous. Plus encore, le plus haut degré d'altruisme dans notre noble religion consiste à faire prévaloir l'intérêt d'autrui devant son propre intérêt. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ Et ils les préfèrent à eux-mêmes, malgré leur propre pauvreté. L'islam nous éduque à défendre son frère ou sa sœur en Allah, dans sa personne, son honneur et ses biens, le défendre contre l'injustice et l'offense, chacun selon ses moyens et ses capacités. Il dit alayhi salatu wassalam, « Man radda an irdi akhih, radda Allahu an wajihi an-nara yawm al-qiyamah » Celui qui défend l'honneur de son frère, Allah épargnera son visage du feu le jour dernier. L'islam interdit la trahison, la corruption, ainsi que le faux témoignage. Et les effets néfastes de ces comportements sont destructeurs et portent gravement préjudice à la fois aux personnes et à la société. Combien de droits ont été bafoués? Combien de victimes ont vu leurs biens spoliés? Combien d'innocents ont été injustement condamnés? Combien d'injustes œuvrent en toute impunité? Combien et combien d'injustices qui sont la conséquence directe de la trahison, de la corruption et du faux témoignage? Ya ayyuha alladhina amanu, awfu bil'uqud. Ô vous qui avez cru, respectez fidèlement vos engagements. Et il dit Azza wa Jal, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا Respectez vos engagements, car vous aurez à en répondre. Et il dit Azza wa Jal, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ Abstenez-vous des propos mensongers. Et dans le hadith d'Abu Hurayrata radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي Allah maudit celui qui donne et qui reçoit les pots de vin. L'islam nous enjoint à être actifs, à travailler et délaisser la quémande, sauf en cas de force majeure. Cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiférée, c'est une religion qui nous appelle à entreprendre, à travailler et à produire des efforts, non à faire preuve de paresse, de nonchalance, de fainéantise et d'incapacité. Allah Azza wa Jal dit, وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Dis-leur, œuvrez, Allah verra vos œuvres de même que son messager. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَى L'homme n'obtient que le fruit de ses efforts qui lui seront présentés le jour du jugement. De même que l'islam nous encourage à œuvrer à la fois pour son intérêt religieux et pour son intérêt mondain. وَبَتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Recherche plutôt à travers ce qu'Allah t'a accordé la demeure dernière, sans oublier ta part d'ici-bas. Et il dit subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Une fois la prière achevée, vous êtes libre de vous répandre sur terre et de rechercher la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le Vous avez pu le constater, mes chers frères et sœurs, le fait de parler des bienfaits de l'islam permet de connaître la réalité, la valeur et la beauté de cette noble religion. Le musulman, lorsqu'il prend connaissance des bienfaits de l'islam, voit sa foi augmenter et son attachement à sa religion grandir. Connaître les bienfaits de l'islam apporte une protection contre les ambiguïtés qui sont véhiculées au sujet de l'islam. Le musulman réalise alors qu'elles sont infondées et mensongères. Exposer les bienfaits de l'islam, c'est un moyen efficace d'appeler à la religion d'Allah. Le non-musulman découvre, à travers ses bienfaits, les fondements de la religion musulmane ainsi que ses valeurs. Quant à celui ou celle qui a été en proie au doute vis-à-vis de sa religion, la lumière des bienfaits de l'islam dissipera les ténèbres qui entourent ses interrogations. Et cette personne reviendra repentante vers son Seigneur et son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et je termine cette conférence par la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et j'ai parfait sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Je vous remercie de votre écoute attentive, en espérant que cette conférence ait été profitable et bénéfique. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na, wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا سبحانه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.